Monsieur le président de l'association de André Léo, s'il vous plaît. Bon, nous abordons donc le quatrième et dernier temps fort de la journée, intitulé « Les vies d'André Léo ». Et nous abordons donc le quatrième chapitre, « Les œuvres ». Fernanda Gastaldello s'est appuyée sur de nombreuses œuvres d'André Léo pour montrer combien celles-ci s'inscrivaient dans la politique éducative du XIXe siècle. Jean-Pierre Bonnet, bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque universitaire de Poitiers,
j'ai pas l'honorariat,
est en mesure, je vous l'accorde, est en mesure, je pense, de nous expliquer en détail comment elle a pu porter vers le public ces trois premiers romans qui posent, je crois, les problèmes du mariage. Je lui laisse la parole.
Je dois vous dire que ma communication est plutôt de l'ordre bibliographique et je vous demande de pardonner l'aspect technique qu'elle peut prendre. Nous avons des données nouvelles récentes qui nous permettent de mieux savoir comment Léodile Champcet, puisqu'au début elle n'est pas encore André Léo, a publié ses premières œuvres, qui sont, autant que nous pouvons les connaître aujourd'hui, parce qu'elle a plus de 30 ans, donc avant, n'a-t-elle rien fait, les trois romans qu'elle a écrits ou commencé d'écrire en Suisse, depuis la fin de l'année 51, lorsqu'elle va rejoindre à Lausanne Grégoire Champcet, proscrit pour l'épouser, et jusqu'au retour de la famille Champcet en France, retour d'exil, fin 60 ou début 61. Et qui sont dans l'ordre d'écriture Une vieille fille, que je place bien à cette, dont je place la rédaction à cette époque, en désaccord avec Fernanda Gastaldello. On peut en reparler. Un mariage scandaleux et un divorce, cette dernière œuvre ayant été vraisemblablement commencée à Lausanne dans la seconde moitié de l'année 59. Pour être terminé au domaine de Fontmort sur la commune de Champagné-Saint-Hilaire en octobre 61 chez la cousine germaine et proche amie d'André Léo, Emma d'Arbez. Les débuts d'André Léo dans l'édition ne sont pas très bien connus de ses contemporains eux-mêmes, qui placent plus volontiers le mariage scandaleux en première place. Premier ouvrage publié, donc premier ouvrage écrit peut-être, dont on sait qu'il apparaît en volume à Paris chez Hachette en 1862, et c'est la première fois qu'on trouve un ouvrage signé André Léo. Mais on trouve surtout plus tard l'idée que le divorce aurait peut-être bien pu paraître auparavant, et serait le premier ouvrage publié. Quant à Une vieille fille, on la considère comme une œuvre plus tardive qui est parue pour la première fois en 1864. D'ailleurs, telle ou telle critique s'y laisse prendre et trouve qu'il y a une chute d'inspiration inquiétante par rapport au mariage. On la place en général dans la chronologie des œuvres entre le mariage et même parfois sur les réclames, les publicités des livres, entre le mariage et les deux filles de M. Plichon, en oubliant tranquillement Jacques Galéron, qui pourtant est paru entre les deux. Pour qu'Une vieille fille retrouve sa place historique, qui est la première, il a fallu la découverte faite par Fernanda Gastaldello à Florence, au cabinet de lecture Vieux-Seux, d'un exemplaire de l'édition de Bruxelles, qui a été longtemps d'ailleurs le seul exemplaire connu, qui est paru sous le simple nom de Léo chez Alphonse Lebègue et daté de 1851. Date qui soulève bien des questions, car le roman se passe à Lausanne et montre, pour ceux qui connaissent la ville, ce qui n'est pas mon cas, une bonne connaissance des lieux. Et donc on se trouve devant une alternative, ou bien Elle a déjà voyagé en Suisse auparavant et a pu connaître Lausanne. Donc, écrire ce roman plus tôt que 51, peut-être le publier quelque part, on ignore où, en feuilleton. Et Lebeg, qui est spécialiste des éditions pirates, a mis la main dessus pour le publier chez lui. L'autre hypothèse, évidemment, pour cette année 51, c'est qu'elle le rédige quand elle arrive à Lausanne pour se marier. Mais là, on est devant un espace de temps très étroit, puisque, à moins de penser qu'elle a rompu avec sa famille, ça ne semble pas être le cas, puisqu'il semble que le fait qu'un peu étrangement, elle se marie dans une église catholique vient du fait de ne pas briser le cœur de sa mère. Et donc, elle est en lien avec eux, et je ne vois pas très bien Zéphirin Béra, son père, accepter que sa fille reste très longtemps en tête-à-tête avec son futur mari. Et donc, on se trouve devant un espace de temps extrêmement bref, puisqu'il faut qu'elle arrive à Lausanne, qu'elle s'installe, qu'elle découvre ou redécouvre la ville, qu'elle prépare son mariage qui a lieu le 20 décembre. Je précise que c'est bien la date du 20 décembre à l'église d'Assan, à une quinzaine de kilomètres de Lausanne, paroisse catholique. Et qu'en même temps, elle écrive ce roman, elle le termine et elle l'envoie à Bruxelles, chez Lebeg, parce que là, on ne peut pas le suspecter d'être venu dérober le manuscrit à Lausanne. Et donc, Lebeg aurait publié l'ouvrage. Oui. Lebeg aurait publié l'ouvrage donc avant la fin de l'année 51, ce qui ouvre un problème supplémentaire parce que les deux grands répertoires, Lebeg publie à Bruxelles, les deux grands répertoires de la librairie belge, qui sont la bibliographie de la Belgique et le bulletin de bibliophiles belges, ne connaissent pas cette édition de 51, mais donnent tous les deux une édition de 59, toujours signée Léo, toujours chez Lebeg pour le bulletin, puisque la bibliographie ne donne pas le nom, d'éditeur. La réponse à ces questions se trouve, je pense, dans quatre lettres de Grégoire Champcet à son ami Théophile Thoré. 2 de mars 59 et 2 de janvier-février 60, qui sont dans les papiers de Thoré à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Seul vestige d'une correspondance, puisque rien ne reste de Thoré jusqu'à présent, et que nous savons qu'il nous manque un certain nombre de lettres de Grégoire. On voit cependant que Thoré est mêlé de près à ses travaux d'édition. Et donc, je voudrais en dire un mot. C'est un avocat. Il a été peu de temps procureur du roi parce que ça n'était pas tellement son goût. Il a donné sa démission pour se consacrer à la politique et à la critique d'art. En matière d'art, on peut signaler, il a fait beaucoup de choses, mais qu'il a été au XIXe siècle redécouvreur de Vermeer, qui était à l'époque à peu près oublié. En politique, c'est un républicain convaincu qui œuvre surtout par voie de presse. Il est le collaborateur de nombreux journaux et il en a fondé un lui-même. Mais c'est aussi un homme de terrain à l'occasion, puisqu'il est un des organisateurs de la journée parisienne du 13 juin 1949 qui veut protester contre la présence de nos troupes devant Rome, où le général Oudinot s'apprête à reprendre la ville à un pouvoir républicain pour la rendre au pape. Après quoi, Thoré juge plus prudent de s'en aller. D'ailleurs, je crois que la plupart des organisateurs vont s'exiler. On va le retrouver entrer clandestinement en Suisse. Début d'août 1949, il est à Lausanne, où il note dans ses carnets qu'il rencontre Grégoire Champcet, qui donc est déjà présent à Lausanne à cette époque, alors qu'on a dit souvent qu'il avait quitté la France en 50, voire en 51. Thoré reste environ 2 ans et demi, un peu moins de 2 ans et demi en Suisse, toujours officiellement clandestin, parce qu'il ne trompe personne dans les autorités, mais il ne porte pas son nom, donc on ne peut pas le rechercher. Et on voit que Grégoire Champsès lui sert à l'occasion de boîte aux lettres, c'est-à-dire que le courrier arrive de France au nom de Grégoire. Puis Thoré reprend sa route et finalement vient s'installer à Bruxelles chez son ami, l'homme de lettres et militant socialiste Félix Delas. Paraît-il très connu en Suisse, mais je ne sais pas s'il l'est en France. Dont on dit qu'il connaît tout le monde dans le milieu des écrivains et éditeurs bruxellois. Voilà, nous sommes ici dans le contexte dans lequel se situent les deux premières lettres connues de Grégoire, de mars 59. Il nous manque tout le début des opérations, mais on comprend que Thoré a parlé à Delas de ses amis Champsès, du roman, donc une vieille fille que Léodile a écrit et qu'elle n'arriverait pas à publier, à quoi Thoré, qui est un homme influent à Bruxelles, a dit « Mais j'en fais mon affaire, donnez-moi le texte, je le porte chez Lebec, qui va le publier. » Qui va le publier tout en étant peut-être pas très satisfait de le faire. En mars 59, donc les choses sont en cours, le manuscrit est chez l'éditeur, et Thoré écrit à Lausanne pour dire qu'il va se charger de la relecture des épreuves et qu'il aimerait donner une préface si Léodile le veut bien. À quoi Grégoire répond que Léodile est très heureuse de donner son accord et qu'elle et lui remercient, le remercient, lui, Thoré et M. Delas, de tout ce qu'ils font pour eux. Mais cette lettre disparaît. Peut-être saisi, puisque lettre entre deux proscrits, correspondance entre deux proscrits. Et Thoré attend vainement une réponse, et finalement, il écrit une nouvelle fois, parce qu'un événement est survenu, et bien, Lebeg attendait, et puis il en a eu assez, il a publié, sans prévenir personne. Ce qui inquiète Grégoire, car dans la première lettre donc, que l'on possède de lui, du 12 mars, il écrit à Thoré, que sans ta relecture efficace, non, il sait de quoi il parle puisque sa profession, sa première profession à Grégoire Champsès, c'est d'être correcteur d'imprimerie, je crains que nous ayons des couleuvres à avaler. Delas a fait envoyer des exemplaires du roman à Lausanne et donc on imagine Léodile et Grégoire examinant attentivement le texte et en accusant réception de l'envoi. Grégoire écrit à Thoré donc la deuxième lettre du 23 mars. C'est bien ce qui était à craindre. Il y a une douzaine de mauvaises lectures, dont certaines sont graves. Et puis le passage, apparemment, il y avait un passage un peu délicat où Thoré, on voit qu'il y a eu un travail entre Grégoire et Thoré et Léodile de mise en place du texte. Et bien, ce passage, il a disparu. Mais on a oublié de faire attention que le paragraphe suivant était lié au précédent. Mais, dit-il à Thoré, ce sont là des observations d'auteur et il est probable que le lecteur passera sur ses défauts sans les voir. Et puis, en conclusion, il dit, voilà donc que cette première tentative a maintenant vu le jour. Nous aimerions savoir au juste sa destinée. Et puis surtout que ce ne soit pas trop décevant pour l'éditeur s'il pouvait, à l'avenir, peut-être accepter un nouveau manuscrit. Il pense précisément à quelque chose. Alors là où j'avoue mon désaccord avec Fernanda Castaldello, à qui j'en demande pardon, c'est que je pense qu'on est là non pas devant la réédition 8 ans plus tard du même roman, donc paru en 1951, chez le même éditeur, ce qui semble un peu curieux tout de même, si c'est la première 51, c'est une édition pirate, qu'en 59, ce soit quelque chose de fait très officiellement par quelqu'un qui est Delas et qui est un homme qui a du pouvoir sur la place de Bruxelles. Et donc un travail fait, on le voit un peu à la va-vite, puisque l'éditeur a hâté la publication, qui a des erreurs dans le contenu, et puis effectivement, sur la page de titre, il y a bien la date 1851, mais je pense qu'il faut la lire 1859, ce qui correspond aux références de la bibliographie belge. Cette lettre continue de façon bien intéressante, puisque Grégoire dit à Thoré que Léodile est en train d'écrire un nouveau roman. En fait, elle l'a déjà terminé, mais elle est en train d'en faire une relecture soigneuse. C'est une œuvre plus considérable que la première, avec de nombreux personnages, beaucoup de scènes, d'événements. Et on pense évidemment au mariage scandaleux, ce que vont confirmer les lettres du début de l'année 60. Entre-temps, la situation a changé pour nos exilés, puisqu'il y a eu les grands décrets d'amnistie donnés par Napoléon III à l'occasion du 15 août 59, à l'époque la Saint-Napoléon. Thoré revient désormais en France. On le voit faire des allers-retours entre Bruxelles et Paris. Quant aux Champsais, ils sont toujours en Suisse, mais courant décembre 59, ils ont quitté Lausanne pour Genève, où Grégoire s'est vu proposer de prendre l'administration d'un quotidien francophone international, L'Espérance. Et c'est donc de Genève, de nouveau patron d'un journal, que le 31 janvier 60, il écrit à Thoré: « Voudrais-tu demander à ton ami Delas qu'il passe chez Lebègue reprendre le manuscrit du mariage scandaleux pour le faire acheminer jusqu'à notre bureau parisien de l'Espérance. » Donc le journal se publie à Genève, mais en fait, son initiative est à Paris. La dernière lettre dit simplement que la transaction est en cours. Il est évident que le manuscrit n'est pas fait pour rester à Paris, mais bien pour venir à Genève, parce que Grégoire aurait l'intention de le publier en feuilleton dans son journal. Ce n'est pas possible, me répond là-dessus Marc Villemier, dont on sait que c'est un grand expert dans l'histoire de tous ces réfugiés socialistes républicains en Suisse, car autant que je m'en souvienne, l'Espérance n'a pas donné de feuilleton. Mais il veut en avoir le cœur net et il a la chance d'avoir à Genève ce qui semble être un très rare exemplaire de ce journal à la bibliothèque publique et universitaire. Parce que ce journal s'est très mal vendu, il était de plus en plus distribué gratuitement, et évidemment, ce n'est pas un gage de conservation, un journal que vous trouvez dans la boîte aux lettres, vous ne le conservez pas, et les bibliothèques n'y souscrivez pas non plus. Et donc, il revient de sa consultation avec une nouvelle, et bien, en fait, en matière de feuilleton, il y en a deux en parallèle, un qui est littéraire et un qui est historique, ou plutôt, comme il touche beaucoup à l'histoire contemporaine, historico-politique. Et le feuilleton littéraire du 1er mai au 28 juillet 60 est signé Léo et c'est un mariage scandaleux. Les quelques sondages faits par Marc Villemier montrent que c'est, selon toute vraisemblance, il faudrait avoir la copie complète, bien sûr, mais le texte tel que nous le connaissons aujourd'hui. Lorsque la famille Champsay est de retour d'exil en France et s'installe à Paris, Léodile va chercher à se faire connaître en donnant le mariage en feuilleton dans un journal parisien. Mais elle souffre de trois handicaps, dira 40 ans plus tard Lucien Descaves, qui fait entre 1900 et 1920 environ une grande enquête sur les communards, a eu l'occasion de se voir confier les papiers retrouvés chez André Léo à son décès en 1900, papiers qu'il conservera, et il a même songé à écrire sa biographie. Il a pris donc un certain nombre de notes, et donc il dit: trois handicaps, elle est inconnue, elle est femme, ce qui est incontestable, et elle n'a rien publié. De fait, lui ne sait pas qu'elle a publié, ce qui est bien le signe que ses publications sont passées relativement inaperçues. Mais c'est au contraire le fait qu'elle a publié qui va être son troisième handicap, car Descaves nous apprend qu'elle va faire des démarches pour son manuscrit auprès de deux journaux parisiens, l'Opinion nationale et le Siècle, et elle essuie à chaque fois un refus. Alors pour l'Opinion nationale, je ne pourrais pas en dire plus, sinon que ce même journal va publier plus tard deux feuilletons d'elle, Aline Ali, aujourd'hui à l'honneur, et Sœur Sainte-Rose. Et quant au Siècle, c'est un des principaux titres de la presse quotidienne française, qui donne à l'occasion dans ses colonnes littéraires des textes des meilleurs auteurs, Dumas, Balzac, Hugo, bientôt Zola, et d'autres qui sont de moindre grandeur, mais des textes qui ont tous en commun d'être des inédits. Et donc la rencontre de Léodile avec la direction littéraire du siècle a dû être brève. Chère madame, votre roman est déjà publié. Il en est de même pour Une vieille fille. En revanche, le siècle va accepter le manuscrit du divorce, donc le troisième, fini en octobre 61 en France. Mais dans quelles conditions et à quelle date, nous ne le savons pas, puisque l'on constate que c'est seulement à partir de mars 65, donc près de 4 ans après avoir été achevé, que le manuscrit, le roman va paraître en feuilleton. Alors, il y a bien une information comme quoi le siècle aurait publié le divorce en volume dès 1862. Mais je pense que c'est une référence fantôme qui est née du croisement de deux choses. Le fait que l'on pense parfois que le divorce a pu être publié avant le mariage, donc au plus tard en 62, avant l'édition Hachette du mariage. Et puis le fait bien certain que le manuscrit du roman a été entre les mains du journal Le Siècle. Le Siècle publie. Ah bon. Le Siècle publie effectivement des volumes. Mais c'est en fait essentiellement ce qu'il appelle le musée littéraire. Ce sont des volumes qui sont constitués à l'origine, je pense, par des feuillets qui sont encartés dans les numéros du journal. Ce sont des volumes de grande dimension, puisqu'ils font des parts 32 cm, c'est-à-dire peut-être le format du journal plié en deux. Et je n'ai pas fait le test pratique. Et qui donnent, donc, qui forment plusieurs centaines de pages et qui donnent à chaque fois des romans et parfois aussi quelques essais, mais qui ont tous en commun le fait d'avoir déjà été publiés en feuilleton. Et ce ne sont pas d'ailleurs tous les feuilletons, puisque Notre divorce, bien que publié en feuilleton, n'y paraîtra jamais. André Léo n'est pourtant pas absente du musée littéraire, mais elle n'y apparaîtra tardivement. C'est pour la première fois en 73 avec le père Brafort, suivi dans, je crois, le volume suivant de La grande illusion des petits bourgeois chers à Roger Picard qui souhaiterait le voir réédité, et puis encore d'autres textes par la suite.
Eh bien, bravo. Le temps est imparti très, très bien géré, et je crois que chacun d'entre nous a beaucoup apprécié le talent de Jean-Pierre Bonnet pour nous faire pénétrer dans les arcanes de l'édition du 19e siècle. Hein, et dans le détail, il nous a montré combien André Léo a eu du mal de se faire publier. Elle a bénéficié heureusement, là aussi, d'un réseau hein, qui a abouti à ce qu'elle se fasse connaître. Et par la suite, ça a été quand même un petit peu plus facile. Je crois qu'aujourd'hui.
Pas tellement.
Oui, c'est bien.
Pas tellement. On peut remarquer qu'assez souvent, il y a un délai assez important entre le moment où elle écrit et le moment où le texte est publié.
Donc là aussi, il a fallu qu'elle se bagarre.
Eh bien. Il ne faut pas perdre de dire petite chose. Il ne faut pas perdre de vue qu'après la Commune, elle est une communarde et que ce qu'elle peut publier en France peut soulever des soupçons. Ça n'a pas été évident. Et puis, elle est exilée, et donc elle a du mal à entrer en lien avec les éditeurs et journalistes parisiens qui auraient peut-être envie de profiter un peu de son absence.
Voilà. Les questions, donc, ça sera pour après l'intervention de Cécilia Beach. Cécilia Beach, diplômée de l'Université de Paris 2, je crois. Et de l'Université française oui. De New York. Elle est professeure à l'Université de l'Alfred. Et son intervention suit parfaitement bien celle de Jean-Pierre Bonnet, puisque on vient de voir les difficultés à publier en livre les premiers romans d'André Léo, et elle va donc aussi utiliser le mode du roman feuilleton. Après la Commune, André Léo va utiliser ce genre pour développer peut-être des thèmes sérieux. C'est ce que va nous expliquer Cécilia.
Voilà. Pardon. Donc, je vous ai distribué une bibliographie où déjà, sans doute, il y a des erreurs. J'ai appris à lire parce que j'ai effectivement mis un divorce en 62. Donc,
des approximations il y a des, successives voilà. qui nous permettront d'arriver à un terme.
Voilà. Donc, il y a tous les jours, j'ai l'impression que M. Bonnet nous apporte d'autres informations. Donc, à vérifier au fur et à mesure des recherches.
Hein. Vous aussi, vous en apportez régulièrement.
Alors, donc, effectivement, c'est une transition assez facile. André Léo a publié au moins 17 œuvres de fiction en feuilleton entre 1870 et 1889. La plupart d'entre eux ont paru dans le siècle, qui les a publiés ensuite en volume, dont on nous a parlé tout à l'heure, hein, jusqu'en 81. Je dois dire que je suis un peu nerveuse, c'est la première fois que je fais une communication en français. Donc. Bon. À partir de cette année-là, ces romans ont continué à paraître en feuilleton dans Le Siècle, La Petite République et Le Temps, mais plus aucun n'a été publié en volume. Sans doute connu par des milliers de lecteurs à l'époque qui lisaient Le Siècle, ces feuilletons sont donc restés enfouis depuis lors dans les journaux et oubliés de l'histoire littéraire. Ce sont ces œuvres-là qui, selon Alain Dalhotel, avaient disparu et dont il restait peu de traces. En dépouillant les journaux de l'époque page par page, nous avons retrouvé la plupart de ces romans, mais il en reste plusieurs encore à exhumer. En lisant sa correspondance dans le fond des caves à l'Institut international de l'histoire sociale à Amsterdam, on comprend avec quel acharnement André Léo écrivait et essayait de se faire publier dans les dernières décennies de sa vie. Dans ses lettres, elle exprime toute son angoisse. « Je me débats, dit-elle, au milieu de difficultés diverses, multiples, de temps, d'argent, de santé, que mon pauvre travail n'avance guère, que j'ai de grandes craintes vis-à-vis du siècle, des dégoûts et chagrins. » C'est une lettre de 84. Elle se plaint de la célérité avec laquelle elle doit écrire des feuilletons et de la misère d'argent lorsque Le Siècle cesse de publier ses romans. Lorsqu'un de ses feuilletons est refusé par Le Temps en 90, elle écrit, je cite, « Depuis 2 ans que le sort me frappe sans relâche, j'essaie chaque fois de résister avec un courage nouveau. » En effet, André Léo a continué courageusement à écrire et à publier jusqu'à la veille de sa mort en 1900. Comme je ne peux évidemment pas parler de tous les romans feuilletons et de tous les thèmes qui sont exposés, j'ai limité mon corpus et mon analyse à 6 romans et 2 thèmes. Et c'est déjà trop. Bon. D'abord la religion et l'anticléricalisme, et ensuite la guerre et la révolution. Donc sujet d'une grande importance non seulement dans son œuvre romanesque, mais aussi dans sa pensée et sa vie. Je ne parlerai donc que peu de l'éducation et du féminisme, donc sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé et puis dont on a déjà entendu parler ce matin, enfin, et cet après-midi. Et je ne parlerai pas non plus des romans qui ont été publiés par les éditions chauvinoises pour me concentrer sur des œuvres un peu moins connues. Et je vais laisser de côté les romans italiens qui mériteraient toutefois une étude approfondie à un autre moment, hein, peut-être la prochaine fois. Donc, l'anticléricalisme. Dans l'Institutrice, publiée dans la République française entre 71 et 62, André Léo reprend le thème de l'anticléricalisme déjà exposé dans nombre de ses écrits avant la Commune. Comme observation d'une mère de famille et Jacques Galeyron, l'institutrice est un réquisitoire impitoyable contre l'influence de l'Église dans les écoles, dans des termes encore plus négatifs. Alors que le dénouement de Jacques Galeyron en 65 n'était pas franchement optimiste sur la possibilité d'une réforme extensive de l'éducation en France, Celui de l'institutrice en 72 est carrément tragique. Ici, l'institutrice du titre n'a aucun allié dans sa lutte pour réformer les méthodes d'enseignement et contre l'interférence de l'Église dans son école. Persécutée par le prêtre du village et la bourgeoisie réactionnaire, elle finit sa vie seule et dans la misère. Je ne parlerai pas plus de ça parce que j'en ai parlé assez longuement dans mon article sur l'éducation, justement, qui a été mentionné tout à l'heure, qui a été publié dans 19th Century French Studies il y a quelques années, si ça vous intéresse. Dans Le Père Brafort, publié l'année d'après, dans Le Siècle, André Léo met en opposition deux frères, l'un Jean-Baptiste, qui respecte l'ordre, la discipline, le devoir, imbu de tous les préjugés de sa classe, et l'autre Jacques, libre penseur et républicain éclairé. Jean-Baptiste fréquente l'Église sous l'influence de son milieu, non par croyance religieuse, mais par amour de l'ordre et par opportunisme. Il ne cesse d'ailleurs de la fréquenter qu'après avoir perdu l'argent dans une affaire commerciale avec le vicaire. Mais même après cet incident, il continue à soutenir l'importance de l'Église pour le peuple, les femmes et les enfants, et il met sa fille au couvent dès qu'elle a 6 ans, pour la seule raison que tous les notables et les meilleures familles du pays mettaient leur fille au Sacré-Cœur. Elle en sort à 17 ans, sachant broder, peindre et jouer quelques sonates. Jacques, au contraire, reste fidèle à ses convictions du début jusqu'à la fin du roman. Il se fait ouvrier, participe au milieu saint-simonien et à la Révolution de Juillet. Anticlérical et socialiste, Jacques et ses amis sont prêts à mourir pour leurs idées, mais contre la violence gratuite. Ils incarnent l'espoir révolutionnaire et la création d'un nouvel ordre basé sur les principes de liberté, égalité, fraternité et évidemment laïcité. Cet espoir n'est pourtant pas dominant dans le roman, puisqu'à la fin de la première partie, Jacques meurt pour l'humanité lors d'une manifestation 2 ans après la Révolution de Juillet. Dans « À la recherche d'une femme », publié dans Le Siècle en 86, la question de la religion est centrale. Dans un avis au lecteur, André Léo décrit ce roman comme, je cite, « l'étude d'une des questions les plus graves et les plus douloureuses de ce temps, l'antagonisme religieux dans la famille ». Dans la famille dépeinte dans ce roman, le père, un brillant avocat, est républicain et vaguement déiste, comme la plupart des pères bourgeois chez André Léo. La mère est catholique et dévote, et les enfants athées. Ces différences d'opinion religieuse créent des conflits continuels dans la famille. Lorsque le père accepte de défendre une amie de sa femme dans un procès d'héritage, il se retrouve du mauvais côté d'une guerre légale entre les nobles catholiques et les monarchistes. Et les radicaux de gauche libres penseurs. De façon ironique, sa victoire dans le procès marque la fin de ses ambitions politiques, puisqu'en le gagnant, il perd sa réputation et sa crédibilité comme défendeur de la République. Plus tard, les croyances religieuses de la mère mettent en danger la vie même de son mari. Lors d'une grave maladie, elle éloigne le médecin et fait venir le vicaire dans l'espoir de convertir son mari avant la mort. L'assiduité du vicaire ne fait qu'empirer son état sans changer ses opinions sur la religion. Il ne retrouve sa santé que grâce au retour du fils qui le protège du vicaire et du fanatisme religieux de sa femme. La religion est également source de conflits dans la vie de Julien, le fils, qui passe la plupart du roman à chercher une femme, d'où le titre. Dans la première partie, la femme qu'il aime refuse de continuer à le voir, bien qu'elle l'aime aussi, parce qu'il n'accepte pas de se convertir au catholicisme. Dans la deuxième partie, il fréquente une jeune femme dans un salon de libre penseur, jusqu'au moment où celle-ci se convertit au catholicisme. Il ne s'intéressait à elle que parce qu'il pensait qu'elle était athée. Enfin, dans la troisième partie, il est de nouveau amoureux d'une femme croyante, mais cette fois tolérante. Adrienne critique d'ailleurs l'intolérance des catholiques et des libres penseurs et défend la liberté de conscience. Néanmoins, Julien tient à la convaincre avant de l'épouser, mais non pas par préjugé ou intolérance, bien qu'il soit effectivement assez intolérant lui-même, mais parce qu'il conçoit le mariage comme une association qui nécessite un certain accord dans les idées pour réussir. Dans cette dernière partie du roman, Julien saisit l'occasion pour exposer à Adrienne ses idées sur la religion. Et j'ai dû couper beaucoup de passages là-dessus, mais Finalement, quand Julien comprend que ses arguments basés sur la beauté de l'humanité, de l'amour et des principes républicains ne réussiront pas à la persuader, il sort son dernier atout. Il raconte toutes les horreurs de l'histoire chrétienne à travers l'histoire d'un tyran cruel et monstrueux. Au début du récit, Adrienne s'écrie « Oh, quelle cruauté, quel fou barbare !» jusqu'au moment où il décrit l'enfer. Et là, elle se rend compte soudainement du véritable sujet de l'histoire et pleure. La sœur de Julien la console. « Chère sœur, ne pleure pas le dieu de la barbarie, il ne mérite pas tes regrets. » Conversion donc réussie, du moins à moitié. Si Adrienne renie l'Église, elle tient toujours à croire en Dieu et à une vie future. Non pas ce Dieu cruel qu'a décrit Julien, mais un Dieu bienveillant. Cette croyance ne pose plus d'obstacle au mariage pour Julien. Je cite, il suffit qu'elle en soit plus esclave du dogme. En référence à la fameuse métaphore de Marx, il compare la religion à l'opium qui atrophie les forces vitales et ne produit que des chimères. Dans un dernier discours sur le sujet de la religion dans ce roman, Julien développe l'idée d'une religion personnelle, adaptée au temps moderne et basée sur la conscience individuelle et l'amour. À la recherche d'une femme a été repris dans la Petite République en 1896, quelques années avant son dernier essai fortement anticlérical, Coupant le câble. Ces deux publications paraissent évidemment un moment critique dans l'histoire de l'anticléricalisme, en cette fin de siècle où l'anticléricalisme et le laïcité sont des thèmes si importants dans la littérature comme dans le discours politique. Alors, la guerre et la religion. Dans les romans feuilletons publiés après la Commune, André Léo fait un portrait très critique de l'histoire sociale et politique de son pays depuis un siècle, passant en revue la plupart des guerres et des révolutions. Dans l'histoire d'un vieux de 100 ans, que j'ai pu lire grâce à M. Bonnet, justement, publié dans la presse en 82, c'est la Révolution française qu'elle examine attentivement à travers les souvenirs d'un paysan qu'il a vécu de près. Au début, le personnage principal, le vieux, comme on va l'appeler désormais, décrit les conditions de vie des paysans avant la Révolution. La misère, la corruption, le manque de justice et de liberté, les impôts, les privilèges, la torture et le viol. Et pire que tout, la guerre, qui faisait des paysans des brutes ignobles et sanguinaires. Les guerres, je cite, avaient tant ruiné, tant pillé, tant dévasté les campagnes, commis tant d'erreurs, que tous les maux sous lesquels gémissait le pays, celui-là était encore le plus insupportable. Lorsque le vieux entend parler des idées de la Révolution, il est immédiatement emballé. De sa campagne, il suit toutes les nouvelles des événements à Paris, dont de la prise de la Bastille. Aux accusations de la violence excessive du peuple et surtout de la mise à mort d'un homme, il reconnaît qu'on avait eu tort. Mais il retourne l'accusation contre les accusateurs en décrivant l'extrême violence que le peuple a subie depuis des siècles et de la part des monarchistes. Comment explique-t-il, pourra-t-on demander au peuple ignorant, une vertu si forte au-dessus des gens instruits ? Le vieux finit par monter à Paris lui-même, plein d'enthousiasme, et il est vite déçu par un retour de l'autorité et des mesures répressives. Et il critique les ambitieux égoïstes comme Robespierre qui se sont emparés de la Révolution pour le propre but et qui l'ont trahi. Il désapprouve l'exécution du roi au nom du droit de l'opinion et de la vie et il déplore le mort de Marat, non parce qu'il appréciait l'homme, mais parce que la violence engendre la violence. Le vieux ne cesse de défendre la Révolution et le peuple, tout en critiquant l'utilisation excessive de la guillotine, la justice arbitraire et intéressée, la violence, les atteintes à la liberté de cette race funeste des Robespierre et compagnie, a commis en son nom, c'est-à-dire de distinguer la Révolution et la terreur. Donc on revient au sujet, le premier sujet de ce matin. Hein. Quant à la guerre contre l'Autriche, le narrateur s'engage avec enthousiasme, mais la violence injustifiée et les atrocités commises, la mauvaise gestion de la guerre, les souffrances qu'elle cause, Tout cela amène notre narrateur à conclure sans référence à la Commune pour les lecteurs de l'époque, enfin pour nous aussi, qu'il n'y a pas de guerre plus atroce que les guerres civiles. Il n'est pas étonnant que André Léo fasse une place au rôle de la femme dans les révolutions et dans la guerre. Au moment de l'élection des représentants des États généraux, le vieux note que les femmes auraient voulu voter. Puis, lors de la rédaction des cahiers de doléances, il rappelle que les femmes ont pris les devants, comme dans la fameuse marche sur Versailles. Il parle aussi de Madame Roland, l'âme de la Révolution, et du geste mal avisé de Charlotte Corday. Au début de la guerre contre l'Autriche, lorsque les hommes s'engageaient avec enthousiasme, il signale non seulement les femmes encourageaient cet élan, bien qu'elles fassent sacrifice de leurs fiancés, leurs maris et leurs fils, mais qu'en plus, elles s'apprêtaient à se battre elles-mêmes. Dans la conclusion de ce roman, André Léo se montre à la fois philosophe et optimiste. La révolution, c'est-à-dire les idées et non pas les événements ou les hommes, ne peut se faire rapidement. Il faut du temps pour qu'elle prenne vraiment racine et devienne durable. Ce qu'il faut évidemment, selon elle, pour que la révolution réussisse un jour, c'est donner une instruction complète au peuple et élever les enfants dans le respect de l'humanité et non dans les croyances absurdes et avilissantes du passé. C'était une citation. Nous retrouvons là deux sujets si chers à l'auteur, l'éducation et l'anticléricalisme. Le dernier mot du roman est une incitation à la lutte. Courage, mes enfants, continuez la révolution et aimez la France. Comme dans l'histoire d'un vieux, le père Brafort, qui reprend l'histoire du début du XIXe siècle, est un plaidoyer pour la révolution et un réquisitoire contre la guerre. Les exploits belliqueux de Napoléon sont décrits comme des boucheries d'empire, et la guerre franco-prussienne a abouti à la honte et a entraîné la ruine de la patrie. À l'occasion de la Révolution de juillet, André Léo met en contraste la foi révolutionnaire des Amis de Jacques, qui luttent pour la liberté des droits et le salut de la France, et les motivations plus puériles et égoïstes de Jean-Baptiste, son frère. Loin de blâmer la violence de la Révolution de juillet comme celle de l'Empire, le narrateur en parle en termes d'héroïsme et de sacrifice louable. 2 ans plus tard, Jean-Baptiste et Jacques se retrouvent face à face lors d'une manifestation, l'un dans les gardes municipales et l'autre parmi les manifestants. Réfugiés dans le cloître Saint-Marie, les insurgés comprennent que la bataille est perdue, mais plutôt que se rendre et subir les outrages des geôliers et des bourreaux, ils choisissent d'abord de continuer la lutte pour, si je cite, « affirmer hautement leur foi dans un dévouement suprême ». Mais Noélie, la compagne de Jacques qui se bat avec les hommes, lui demande finalement d'arrêter la lutte. Je cite encore, « Nous avons affirmé le droit, nous avons fourni aux hommes un exemple de plus de dévouement à l'idée, mais à présent, Jacques, nous ne faisons que tuer, arrêtons-nous. Notre héroïsme devient la fureur. Nous mourons pour l'humanité et nous nous plaisons à tuer les hommes. » Les événements de février 48 sont une catastrophe pour Brafort, pour qui la République est synonyme de terreur. Non, tout cela n'est pas possible. La République, c'est-à-dire le sang, l'orgie, le pillage, le bonnet rouge, l'échafaud, d'autres Robespierre et d'autres Danton. Et il continue. Pour lui, le communisme est un monstre qui s'apprête à le dévorer. Le combattre est une question de vie et de mort. Le 24 juin, Brafort se bat une fois de plus contre les révolutionnaires, parmi lesquels son neveu Jean, fils de Noélie et Jacques, qu'il tue sur une barricade, comme il a peut-être tué son propre frère. Si à la recherche d'une femme est une étude de l'antagonisme religieux dans la famille, ce roman met en scène des conséquences tragiques de l'antagonisme politique dans la famille. Le dernier chapitre du roman traite du Second Empire, de la guerre franco-prussienne et de la Commune. Surpris par le début de la guerre et désespéré par sa défaite, le père Brafort soutient la formule « pas de politique devant l'ennemi ». Même s'il reconnaît que tous les efforts du gouvernement se bornaient à paralyser les forces nationales, au lieu de blâmer le gouvernement, il tourne sa rage contre, je cite, « ces fouteurs de désordre, ces rouges odieux ». Quant à la Commune, c'en était trop. Il remet son uniforme et se rua au massacre. Et là, malheureusement, la description du massacre même a été supprimé dans le feuilleton, mais aussi malheureusement quand c'était publié en volume. À la fin du roman, Brafford est témoin d'un nouveau réveil de l'esprit d'opposition et d'anarchie. Le monstre, c'est-à-dire l'international, vivait encore, et la conception autoritaire de la société à laquelle il avait adhéré toute sa vie était frappée à mort. Conclusion très négative, évidemment, pour le père Brafford, mais étonnamment optimiste de la part de l'auteur, étant donné que ce roman ne fut publié qu'un an après les derniers événements racontés. Et donc il y a beaucoup de passages coupés dans ces deux derniers chapitres, sur juin et puis sur la commune. Et dans une note en bas de page, des éditeurs du siècle expliquent « Ces suppressions nous sont imposées par notre vif désir, au milieu des circonstances si difficiles que nous traversons, de ne pas réveiller des sentiments et des souvenirs douloureux. Du reste, le père Brafford paraîtra bientôt au volume et les passages supprimés y seront sans doute rétablis, hein, ce qui n'était pas le cas, malheureusement. » Dans une lettre à Pauline Prince, que nous connaissons maintenant, elle écrit « Dans une lettre à Pauline Prince, donc c'est André Léo qui écrit, « Je suis fort étonnée que le siècle veuille publier Brafford. Plus que jamais, à présent, que la lutte est posée ouvertement entre le socialisme et le vieux monde, dont les libéraux font partie, un pareil feuilleton, possible encore sous l'Empire, me paraît inacceptable pour ce journal de banquiers et de parvenus. Je crains donc les tiraillements désagréables, des difficultés à propos de telle ou telle phrase que j'aimerais mieux qu'ils me l'eussent rendu. » Et en 83, elle écrit à son fils que le siècle, c'est le bourgeoisisme autoritaire avec tous ses préjugés, et qu'elle n'est pas fière d'y collaborer. Les deux dernières œuvres dont je vais parler rapidement, ici, 5 minutes, traite de cette dernière période de la vie du père Brafford. L'action de Marie la Lorraine, publiée dans La République française en 1974, se passe à Metz en 1970. Dans cette nouvelle, André Léo fait une critique de la guerre de tous les points de vue. Je vais sauter ça. Donc il y a les mêmes sortes de critiques lors de l'annonce de la guerre et de la guerre elle-même. Elle dénonce la guerre elle-même. « Quand même on battrait les Allemands, je ne trouverais pas cela beau, parce que faire tuer tant de monde pour des questions de roi et d'empereur, c'est un gros crime. » Et puis les mères de famille qui pleurent se lamentent sur leurs fils qui partent à la guerre. Ensuite, André Léo s'en prend aux autorités françaises pour leur mauvaise gestion de la guerre. Lorsque les hommes qui sont restés à la commune demandent au maire les armes pour se défendre contre les Allemands, le maire refuse. Le peuple n'a pas le droit de s'armer. Selon Cordier, donc un républicain dans le roman, l'empereur aurait trop peur que les armes soient utilisées contre son régime. Louis, un autre républicain, approfondit la critique de l'empereur et de la guerre. Dans une voix prophétique, il accuse l'empereur de perdre la France, je cite, « tant par l'imbécilité que par égoïsme et mauvais ménagement ». Quand les Allemands arrivent dans la ville, les atrocités de la guerre commencent. Les soldats volent de l'argent, des armes, de la nourriture, ils violent des filles et tuent les hommes. Dans toute la France, l'armée prussienne brûle les villages et tue les paysans sans armes. Selon Cordier, la guerre est par elle-même un crime, une bestialité. Elle ramène l'homme à l'état sauvage et remue en lui tout ce qu'il a de commun avec l'animal, tous ses vieux instincts de rapine et de cruauté. Mais ce n'est pas la faute du peuple. Je cite encore, 100 fois plus criminels sont ceux qui ordonnent la guerre. L'avant-dernier feuilleton d'André Léo, Les Rapaces, trace l'histoire d'une veuve bourgeoise et très conservatrice, Madame Bessonnet, et sa nièce Odette, dont elle s'occupe, de 59 à 79. De nouveau, à l'approche de la guerre, on retrouve les mêmes réactions, donc l'incrédulité, la colère, etc. Ce qui est intéressant à noter dans ce roman, c'est la place que André Léo donne à la lecture des livres et à la presse dans le développement des idées et de l'histoire. Les surveys, amis de Madame Bessonnet, malgré les différences politiques importantes, font la propagande contre la guerre et distribuent les livres à la campagne. Selon le narrateur, grâce aux livres que la bourgeoisie intelligente répandait avec ardeur, le peuple ne croyait plus aux légendes de la guerre glorieuse. Le paysan ne quitte plus ses terres avec enthousiasme pour la cause, mais parce qu'il est conscrit. Il faut de la chair à canon. Par contre, si les livres servent de propagande contre la guerre, la presse semble la soutenir. Lors d'une manifestation pacifiste à laquelle participent Odette et ses amis, M. Servet s'avoue pessimiste. Bien qu'une foule énorme de braves gens, environ 100 000 manifestants, criait « Vive la paix !», la presse prendrait sûrement parti pour l'empereur en glorifiant les quelques personnes qui répondaient à Berlin. Au moment du siège, André Léo décrit l'espoir du début, la solidarité, le combat des hommes, le travail des femmes et la misère, mais aussi la façon dont d'autres personnages, les rapaces du titre, profitent de la misère des autres pour gagner de l'argent. Lorsque M. Servet, ce noble cœur, meurt sur le champ de bataille, le narrateur, ou André Léo, saisit l'occasion pour insérer une critique politique de la guerre. C'était la vieille chasse à l'homme, la guerre, faite au compte des chefs par ses esclaves. Après la capitulation, dont elle ne dit pas grand-chose, les personnages principaux partent à la campagne, un peu comme André Léo l'avait fait, en fait, qu'elle ne revient à Paris que le 4 avril. D'où ils apprennent la révolution du 18 mars, la fuite du gouvernement à Versailles et l'élection de la Commune. Si André Léon ne fait pas de commentaires sur la capitulation, elle n'hésite pas à faire connaître son opinion sur la Commune. Je cite « Paris s'enfermait dans ses murs et appelait la France à se soulever contre une assemblée monarchiste, ennemie de la République et usurpatrice des pouvoirs qu'elle n'avait pas reçus. » Et sur la chute de la Commune, « La Commune est condamnée à périr, et maintenant Paris est au pouvoir des cléricaux et des monarchistes. Il y a rue de massacres, dénonciations, rage folle et infâme. » Ici, on trouve encore des points de suspension indiquant des passages coupés, dans lesquels elle avait peut-être décrit la Commune en plus de détails, mais comme celui-là n'a été pas publié en volume, il n'y a pas de chance qu'on trouve le manuscrit original. On ne saura pas jamais peut-être ce qu'elle a dit. Dans ce roman, elle soulève de nouveau la question de la femme dans la Révolution. La femme aussi doit se dévouer à la patrie. Après la Commune, lorsqu'ils reviennent dans la région parisienne, Madame Bessonnet, qui a toujours été crédule, est facilement convaincue par les rumeurs, on a entendu parler de ça tout à l'heure aussi, sur, je cite, « les horreurs de la Commune et la scélératesse des Parisiens ». André Léo insère ici de nouveau un reproche à la propagande révolutionnaire et mensongère de la presse et à l'étouffement de toute voix d'opposition. Et en conclusion, à cette exploration de l'anticléricalisme et de la guerre et la révolution dans les romans feuilletons d'André Léo, revenons à son dernier texte, « Coupons le câble », publié un an avant sa mort, à la veille du XXe siècle. Comme dans beaucoup de ses œuvres, André Léo se tourne vers l'avenir à la fin de cet essai. Et c'est justement sur nos deux thèmes, guerre et religion, qu'elle jette son dernier regard. Donnons-lui donc le dernier mot. Guerre et superstition. Quand ces deux fléaux auront disparu de notre terre, libérés du mysticisme oriental, de croyances divines, du mensonge et de la misère, les humains concevront l'amour et le respect de l'humanité. Ils dégageront facilement l'intérêt commun, l'association, qui doit les unir, détruisant du même coup les divisions qui neutralisent les efforts et empoisonnent leur existence. Alors, ils aimeront la vie et croiront en elle. Prêtres et rois eux-mêmes associés, frères de travail, ils ne comprendront plus ni les fureurs religieuses, ni la rage de régner sur ses semblables. Merci.
Eh bien, merci beaucoup pour ce respect du contrat horaire à la minute près. Je crois qu'on a pu apprécier la francophonie parfaite de Cécilia, hein, qui assure de l'autre côté de l'Atlantique la connaissance des œuvres et des idées d'André Léo et aussi leur découverte. On aura aussi apprécié la lecture thématique des romans d'André Léo, des romans feuilletons qui plongent dans l'histoire immédiate, hein, et où l'on retrouve sa force démonstrative dans les intrigues et dans les dialogues. À présent donc, nous avons encore une dizaine de minutes pour répondre aux questions éventuelles. Et puis on entendra pour conclure Madame Nathalie Brément. Et bien sûr, les dernières paroles reviendront à Monsieur Frédéric Chauveau, qui aura certainement à nous projeter dans l'avenir.
Alors, j'ai une question un peu hasardeuse, hein, mais bon, on ne sait jamais. À Jean-Pierre Bonnet, est-ce que je me demandais si elle avait vraiment du mal à être publiée? Est-ce qu'elle a essayé, est-ce qu'elle a été en contact avec l'éditeur belge qui éditait Les Communards, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, Kistemaker. Faudrait lui demander à elle, mais bon, parce que je me demandais, voilà, pourquoi...
Pourquoi est-elle arrivée chez Schnee?
Pourquoi n'y est-elle pas allée voir Schnee, ça aurait pu... Bon, je ne sais pas, voilà.
Lapsus.
Ah oui, pardon. Pourquoi est-elle arrivée chez Le Bègue? Ben, à mon avis, parce que Le Bègue était un peu un client de l'As. On sent que, d'après les réactions de Grégoire, que je n'ai pas cité, parce que ses lettres sont un peu diffuses, qu'il s'est fait forcer la main et que c'est pour ça qu'il a publié un peu en la va-vite. Et puis alors, il y a aussi une chose curieuse, c'est que la même année, au Messe Catalogue de Francfort, donc la foire du grande foire du livre de Francfort, ce n'est pas Le Bègue qui se présente comme éditeur, c'est Schnee qui est un équivalent de Le Bègue. Le Bègue est d'origine française, Schnee est d'origine russe, en fait plutôt des pays baltes. Et tous les deux sont des gens qui trafiquent dans le marché du livre à Bruxelles, qui est relativement libre en Europe à ce moment-là. Pourquoi? Je suppose qu'ils sont partagés l'édition, mais je ne sais pas plus. Je connais. Il faudrait peut-être regarder à travers le personnage de Delas quels étaient ses liens, paraît-il nombreux, avec tout ce qui se faisait dans les milieux de l'édition.
Sur André Léo et la guerre. D'abord, juste une petite remarque sur la violence. Le premier, à ma connaissance, qui a parlé de l'héritage de la violence venant de l'ancien régime, c'était Gracchus Babeuf dans ses lettres à sa femme. C'est quand même intéressant de voir qu'André Léo en est héritière. C'était pas évident. Et à propos d'héritage, c'est mon deuxièmement, elle hérite de Robespierre, j'allais dire un peu malgré elle. Robespierre était le seul en 92 à dire qu'il était contre la guerre, alors que les Girondins voulaient la guerre pour la gagner et asseoir la République. Le roi voulait la guerre pour la perdre et revenir dans les fourgons de l'étranger. Lui disait, premièrement, on peut perdre la guerre, donc tout est foutu. Deuxièmement, ça va coûter cher en mort, en tout ce qu'on voudra, ce que vous avez développé, ce qu'elle a développé. Troisièmement, il y a des ennemis ici en France. Quatrièmement, il ne le dit pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, on n'exporte pas la révolution. Tout pays envahi va se retourner contre. Il l'a dit à la Convention. Et cinquièmement, si jamais on gagne, risque de césarisme. Ça fait beaucoup de choses. Elle écrit ça après Napoléon III, risque de césarisme. Bon, avec les guerres de Napoléon III. Tout ça, c'est un sacré paquet. Alors je vais finir par quelque chose qui a l'air d'une blague. C'est un discours de Robespierre un 18 juin. 18 juin, c'est intéressant, à propos de la guerre. Je cite, « Un peuple qui traite avec l'ennemi sur son territoire est un peuple déjà vaincu et qui a renoncé à son indépendance. » C'est pas beau, ça? 18 juin 93, à la Convention.
Alors, j'interviens pour présenter quelles étaient les... À part l'édition de 1851 de Une vieille fille, qui est possédée par la bibliothèque du Vieux-Seux de Florence, je veux un peu, à soutien de cette date, je veux apporter quelques éléments. Alors, tout d'abord, il faut dire que Vieux-Seux était un collectionneur de premières éditions françaises. Dès qu'une édition française était publié, il achetait pour enrichir sa collection d'éditions, de premières éditions. Mais ça, ce n'est pas une preuve, évidemment. Mais de toute façon, ça peut aider à comprendre l'esprit dans lequel ce collectionneur de livres agissait. Je lis maintenant, d'après l'Office de la publicité du Royaume de Belgique, on explique que Alphonse Lebec, qui était l'éditeur de cette première édition, était spécialisé dans la contrefaçon de livres français. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, comme il n'y avait pas à l'époque la propriété littéraire, je lis, n'a pas de statut international, la Belgique est le centre de ses publications périodiques et peu coûteuses d'œuvres françaises, constituant pour la plupart des éditions originales, pour la plupart, mais qui avaient puisé souvent leur contenu dans les journaux et revues où l'œuvre avait d'abord été donnée en feuilleton. Sans remaniement ultérieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'éditeur pouvait librement puiser à son gré dans des sources qui pouvaient être d'autres journaux, librement, et sans demander l'autorisation de l'auteur, il pouvait publier. À confirmation de ça, dans la première page de Une vieille fille de l'édition de 51, nous lisons « Propriété de l'éditeur », ce qui signifie que l'auteur n'avait pas demandé cette édition. Et cela justifierait à mes yeux les deux versions, c'est-à-dire la mienne, l'édition de 51, et celle de M. Bonnet, de l'édition de 59, parce que l'édition de 59 serait l'édition voulue par l'auteur. L'édition de 51, c'est une version, disons, piratée par l'éditeur. Il y a une troisième observation à faire, que je trouve dans le livre de l'imprimerie en Belgique, de 1800 à 1930. On y lit que l'éditeur s'était installé à Bruxelles le 2 avril 1854. Alphonse Lebègue ouvrit une librairie à une telle adresse, numéro 16 de la montagne de la Cour. Et après, nous lisons, il s'était installé précédemment comme imprimeur rue du Jardin d'Idalie. Alors, justement, dans la première page, toujours de l'édition de 51, il y a l'adresse de l'éditeur qui est Bruxelles, Alphonse Lebègue, imprimeur, rue Jardin d'Idalie. 5, si je lis bien, parce que c'est tout petit. Et donc, l'adresse de l'éditeur en 1951 serait confirmée par deux sources, celle que je viens de citer, c'est-à-dire le livre de l'imprimerie en Belgique, et aussi l'autre, l'Office de publicité belge, où l'on lit aussi qu'en 1848, Alphonse Lebègue s'installe comme imprimeur-éditeur rue Jardin d'Idalie. Et donc, il est maintenant, il faut, ce sont des données évidentes qui confirmeraient l'édition de 51. Je me rends compte parfaitement de tous les doutes que vous avez cités au début, c'est-à-dire comment serait-ce possible de l'édition de 51 si le roman se développe en Suisse. Je me rends compte de tout cela qui pourrait sembler en contradiction avec cette date. Il y a pourtant des éléments qui nous confirment que jusqu'en 1954, le siège de l'éditeur était exactement à la même adresse qui est signée ici dans l'édition de 1951. Et après que cette adresse a changé. Alors, je proposais à M. Bonnet de le faire moi-même, pas tout de suite, mais dans quelques temps. Ce serait intéressant de comparer l'édition de 51 qui est à Florence et qui a été aussi acquise par l'Université de Padoue, donc je peux la consulter plus facilement, et une édition postérieure pour voir s'il y a eu des remaniements, ce qui prouverait les deux éditions différentes.
Mais on n'a aucun exemplaire à la date de 59 ? Aucun.
Il y en a pourtant un à la date de 64.
Non, 59.
Non, 59, il n'y en a pas.
Alors, il y a un cas, c'est l'exemplaire de l'Université de Stanford en Californie, et qui porte la date de 51 sur sa page de titre, et qui porte la date de 59 sur sa couverture. Ce qui n'est pas une preuve, parce que surtout dans ces publications, il y a beaucoup de tripotage, et il arrive par exemple qu'on publie un gros bouquin, et puis on en publie un morceau quelques années plus tard. Le bouquin porte toujours sa date de départ, il est amputé des deux tiers pour faire une édition économique avec une nouvelle couverture. Ce n'est pas une preuve, mais tout de même pour un livre dont on n'a pas beaucoup d'exemplaires, c'est tout de même une question que ce soit précisément 59 qui soit sur la couverture. Alors j'ai une question subsidiaire, est-ce que l'exemplaire, je pense que non, puisqu'il doit être relié, l'exemplaire Vieux-Seux. En général, quand on relie à cette époque-là, on fait sauter la couverture, donc on le perd. Si la couverture était là, ce serait discriminant qu'il y ait deux couvertures différentes à celle de Stanford et celle de Florence. C'est un travail de recherche.
On peut le vérifier, c'est ça.
C'est pas, la question n'est pas close du tout, hein, je suis bien d'accord. Voilà, voilà. On ouvre des paris.
Oui, excusez-moi, je voulais savoir si... Alors, j'étais très frappée par la modernité du discours d'André Léo et vraiment sa pertinence, sa réflexion sur son temps. J'aimerais savoir si elle a inspiré des féministes, des mouvements féministes postérieurs. Est-ce qu'il y a des féministes, par exemple, dans les années 70, qui se sont inspirées d'elle et qui l'ont dit ?
Je ne pense pas, malheureusement.
Bah, c'est peut-être lié au fait, oui, où si ses œuvres n'étaient pas particulièrement connues, bah, là, effectivement...
Oui, ouais, non, je pense qu'elle était, à cette époque-là, elle était plutôt inconnue. Ouais.
Madame Pellegrin, je ne veux pas... Attends, j'arrive, Nicole. C'est vrai qu'elle n'est pas citée, ça, à ma connaissance, mais son nom l'est. Hélène Brion, par exemple, la cite très très clairement à plusieurs reprises dans Vive le féminisme. Et puis, enfin, il y en a deux, Hubertine Auclert la nomme aussi.
Vous vouliez dire quel siècle ?
Comment ?
Je pense qu'elle parlait du 20e siècle.
Ah oui, alors là, je vous prie de m'excuser. Oui. Non, là, j'étais dans, effectivement, oui. La fin de siècle. Où elle est le début du 20e, où elle continue quelque temps à être nommée, sans être vraiment analysée, sans être vraiment utilisée, ce qui me paraît très important à dire aussi.
Oui, excusez-moi. Non, mais je ne sais pas, j'avais peut-être mal compris.
Ça pouvait être les 1870 aussi. Voilà.
Ah, vous vouliez dire 1800 ? Non, 1900.
Alors, une petite question pour Cécilia Beach et une question unique. Alors, tout d'abord, donc, non, pour la communication en français, c'était impeccable. Hein, ça donne des complexes. Du coup, on ne va plus oser nous faire des communications en anglais parce qu'on va être ridicule. Mais alors, la question plus sérieusement, alors, c'est évident qu'on ne peut pas traiter tous les thèmes parce que bon, c'est foisonnant. Mais du coup, en vous écoutant, je me suis demandé si après donc, justement les années 1870, si le thème de la violence en tant que tel, ce ne serait pas un thème pertinent donc, à traiter. Si le thème de la violence, parce qu'on peut prendre le thème de la révolution, le thème de la guerre sociale, le thème de l'affrontement, si le thème de la violence lui-même, oui, serait un thème qui serait pertinent. Alors ça, c'est un... Bon, c'est vous qui pouvez répondre, hein, c'est vous qui avez lu, si je veux dire.
Oui, sûrement, parce que dans les drames du cerveau, c'est très important, par exemple. Les drames du cerveau, c'est sur les mauvais effets de la mauvaise lecture, donc la petite presse. Et donc, tous les crimes qu'on commet quand on lit trop les journaux de la petite presse. Donc là, il y a beaucoup de violence.
dans les romans italiens aussi, il me semble qu'il y avait beaucoup de... il y a pas mal de... La question de violence est aussi assez présente. donc oui, sans doute.
Je voulais savoir si les titres de ces œuvres étaient novateurs pour l'époque et si les titres des romans feuilletons étaient choisis pour correspondre à une presse de romans feuilletons. Voilà. Qui peut répondre?
Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre connaît
mieux les... Il semble que c'est difficile à dire, mais il semble au moins que pour le père Brafort, ce n'était pas le titre qu'elle avait donné au roman quand... Ce qui me surprend, c'est que j'ai vu que c'était qu'on disait que quand elle a fait le contrat, je pense, en 69 avec le siècle, qu'elle a déposé le manuscrit, c'était Jean-Baptiste Brafort. Ce qui me surprend que ce soit Jean-Baptiste, ce n'est pas le bon. Les deux frères Brafort, Jacques et Jean-Baptiste.
Non, mais justement, c'est du point de vue du mauvais.
C'est du point de vue du mauvais, c'est ça. Oui, oui. Et alors, le père Brafort, c'est du coup le bon. Mais c'est...
Le père Brafort, c'est le mauvais.
Ah, c'est le mauvais, d'accord. Oui, oui,
le mauvais. Mais les titres d'origine, c'était Un honnête bourgeois. Donc, mais effectivement, donc, c'est un roman assez intéressant parce que elle s'est racontée du point de vue du mauvais, justement, mais avec beaucoup d'ironie. Donc, c'est... Et puis, elle est toujours, on parlait tout à l'heure, elle est toujours en train de dire, de l'excuser dans un sens en disant il est. Martyr de l'idée, ou martyr de ses idées, hein, de cette idée de l'ordre et de l'autorité, que ce n'est pas de sa faute, hein, que c'est un honnête homme qui fait des mauvaises choses à cause de l'idée. Donc c'est intéressant.
Oui, non, pour répéter ce que tu viens de dire, effectivement, le père Brafort, c'est très surprenant parce que c'est le récit d'un l'histoire d'un personnage très antipathique qu'on déteste du début à la fin, et le narrateur fait semblant d'être d'accord, enfin pas d'accord avec lui, mais de l'excuser sans arrêt. C'est pas sa faute, c'est à cause de son éducation. Il aurait eu une autre éducation, il serait pas devenu comme ça. Là, oui, il a laissé mourir son ancienne maîtresse, mais il ne savait pas. L'idéologie chez lui est plus fort que tout. Il était réactionnaire, faut l'excuser. Bon, et c'est très drôle en même temps. C'est très malin parce que du coup, on trouve ça forcément extrêmement choquant. On le condamne d'autant plus que le narrateur l'excuse. Donc, c'est vraiment un procédé très, très intéressant et rusé. Et pour les titres, oui, moi, je trouve qu'effectivement, quand on lit Les rapaces à la recherche d'une femme, drame, on a l'impression, comme faisait Louise Michel exactement, Les microbes humains, Le nouveau monde, c'est des titres un peu, entre guillemets, racoleurs. Hein, c'est-à-dire, on va à la recherche du public, ça va vous plaire, c'est des aventures, lisez. Et puis derrière, effectivement, un discours très radical, mais c'est bien des titres de romans feuilletons de l'époque. Ouais.
Et puis on avait dit tout à l'heure qu'elle utilise les genres comme le roman sentimental et contourne ces genres-là pour ses propres buts. Et elle fait la même chose avec le roman populaire, parce que les drames du cerveau, par exemple... Elle raconte tous les crimes qui sont dans les romans populaires de l'époque. Donc, elle utilise en fait le roman populaire pour critiquer le roman populaire. Donc,
je crois qu'il y a une dame qui voulait.
Mais qui a levé la main?
Oui.
Nicole.
Rapidement, deux questions d'ignorantes. Moi, je remercie beaucoup Cécilia de me laisser repartir avec une liste de lectures impressionnante, un peu effrayante. Et alors, je viens de faire deux découvertes extraordinaires. Alors, l'histoire d'un vieux de 100 ans que je n'ai pas lu, il faudrait lire. Je voudrais savoir quelle forme ça a, parce que je pense au Nanon de George Sand, qui raconte comme ça, sur un long temps, l'histoire d'une vieille femme, d'une femme devenue vieille et qui a traversé l'époque révolutionnaire et tout une partie du siècle, et sous forme de mémoire fictif. Or là, c'est un narrateur ou ce sont des mémoires? Puis alors la deuxième question, c'est que Belle-fille de Quartu, Quartu, je ne sais pas comment il faut prononcer, c'est signé Léodile Béra.
Oui.
Alors ça, c'est cette touche finale.
Ouais. Pour la première question, qui était, j'ai déjà oublié.
La forme.
Donc c'est quelqu'un. En fait, le narrateur. J'ai dit le narrateur, mais c'est faux. C'est quelqu'un qui interviewe le vieux, en fait.
Ah, c'est ça.
Hein, donc c'est quelqu'un qui, à qui le vieux raconte son histoire, et avec une précision assez étonnante, parce qu'il cite Condorcet hein, dans le texte sans regarder ses notes. Hein, donc et il ne parle pas comme un paysan du tout. Hein, mais, donc ça, c'est la structure narrative de ça. Et oui, La belle-fille de Quartou. En fait, il y a une lettre aussi aux archives à Amsterdam, où... peut-être plusieurs, où elle correspond avec quelqu'un du temps et elle se plaint qu'on veuille pas publier un autre livre d'elle qui se passe aussi en Italie et elle se demande s'il n'y a pas préjugé contre elle en fait. Et la correspondant qu'elle a au temps dit non, ça ne peut pas être un préjugé contre vous parce qu'on ne savait pas que c'était de vous en fait, la personne qui était responsable. Donc elle a dû choisir de publier sur le nom Elbera pour que l'éditeur du journal ne sache pas que ce soit d'elle, en fait. Et pourtant, le deuxième roman a été refusé parce qu'il ne voulait pas publier deux romans italiens de suite.
Il y a un petit complément quand même, il faudra regarder la chronologie, mais est-ce que ça ne se retrouve pas au moment où ils sont en Sardaigne, il me semble, non ? Et que Benoît Malon est en mauvaise posture puisqu'il ne va pas tarder à se faire arrêter pour se faire expulser d'Italie pour la deuxième fois vers la Suisse. Et donc, ils sont sous le nom de M. Benoît, de Mme Béra, de M. et Mme Béra. Et je pense que ça peut être une conséquence aussi. Il faudrait voir si le feuilleton n'a pas déjà paru en Italie au même moment, parce qu'elle avait quand même pas mal d'amis italiens qui publiaient des choses dans la presse italienne. Et ça, Fernanda Castaldello le saura mieux que nous. Ce qu'on trouve d'elle publiée en italien.
Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vois qu'on a respecté l'horaire à 10 minutes près. C'est donc la parole à Madame Raymond. Je lui laisse ma place. Mais réussi.
Réussi. Alors, tout d'abord, je voudrais... D'abord, je veux remercier François Dubasque et Frédéric Chauveau ainsi que l'association André Léo de m'avoir invité à faire cette conclusion. Donc, ce colloque fait suite à une journée d'études organisée en mars 2010 qui a évoqué le contexte dans lequel s'est déroulée la vie d'André Léo et sa trajectoire. Aujourd'hui, on a abordé beaucoup plus en détail la vie, ou plus exactement les vies d'André Léo. Cette journée, par la richesse de ses communications, je pense que vous serez tous d'accord là-dessus, a permis de faire connaître davantage André Léo, de la cerner, de montrer la légitimité et la pertinence que peuvent représenter des recherches historiques sur cette femme. Elle contribue donc à faire encore sortir davantage André Léo de l'oubli dans lequel elle s'est trouvée injustement pendant de très longues années. La plupart des publications qui ont porté et qui portent même encore sur André Léo font en effet référence quasiment systématiquement à l'oubli d'André Léo. En 63, et je remonte seulement à 63, dans son ouvrage Les Pétroleuses, Edith Thomas se demandait, je cite, « Par quelle injustice de l'histoire, une femme qui a laissé des romans plus qu'estimables, qui a joué dans la commune un rôle important, n'a trouvé nulle part la place qui lui revient de droit ?» En 78, Fernanda Castaldello, dans l'introduction de sa thèse, souligne combien André Léo est inconnu du public et regrette que son nom soit très peu cité dans les ouvrages portant sur la commune. Alain Dalhotel, lui, en parle vraiment très longuement dans son ouvrage. Il intitule l'introduction de sa biographie en 2004 « Un oubli fâcheux » et développe aussi cette question dans sa conclusion, en déplorant que André Léo, son histoire a été complètement occultée. Gérard Dittmar, pour terminer, mais bien sûr, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un peu tout le monde qui parle de cet oubli. Dans la présentation des écrits politiques, termine son introduction par ces mots, « Oubliée de l'histoire, elle revient aujourd'hui éblouissante ». Alors, si cette question de l'oubli dans lequel se trouvait André Léo est beaucoup moins d'actualité aujourd'hui, depuis que, en particulier, que l'association André Léo a commencé à militer en faveur de sa redécouverte, et si cet oubli est tout à fait relatif aujourd'hui, puisque, comme l'a dit Frédéric Chauveau ce matin, on est dans une période où on a une sorte d'engouement, d'intérêt pour André Léo qui se développe. Et puis, il y a quand même très peu de personnages de son ampleur à qui on consacre un colloque, et puis l'année suivante, un autre colloque, et puis l'année encore suivante, encore un autre colloque, puisque c'est ce que fait l'association André Léo. Malgré ça, cette question semble encore toujours très prégnante, et on peut logiquement en chercher la raison. Alors bien sûr, avant que je vous en parle aujourd'hui, des raisons ont été suggérées, justement en particulier par Dalhotel. La première qui vient à l'esprit, c'est que c'était une femme et qu'on connaît... On sait la difficulté des femmes à avoir percé dans l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne reprendrai pas les thèses de Michel Perrault sur les oubliés de l'histoire, mais voilà. Le fait, évidemment, que André Léo aussi ait pu, à un moment, avoir un discours particulièrement radical, en particulier à certains moments sur la question de l'insurrection, justement, ou bien sûr, évidemment, sur le statut de la femme, et pu faire qu'on ait eu des réticences à certains moments à travailler sa vie et sur son œuvre. Et aussi le fait, ça c'est Dalhotel aussi qu'il dit dans sa conclusion, le fait qu'à la fin de sa vie, les 20 dernières années de sa vie, elle s'est complètement retirée de la vie publique, et donc finalement elle a perdu un peu le fil et un peu les contacts avec tous les gens, tout le milieu dans lequel elle vivait. Mais il me semble aussi, et c'est là en fait que je veux en venir, que les travaux qui ont été présentés aujourd'hui apportent aussi une réponse à cette question de l'oubli d'André Léo. Parce que ce qui est frappant à l'issue de cette journée, c'est le portrait multiforme qui s'en dégage. Le fait même d'avoir intitulé le colloque « Des vies » montre que, pour commencer, André Léo n'est pas un personnage qu'on peut aborder d'un seul point de vue, mais qu'il faut la cerner sous différentes perspectives. Les différentes communications ont mis en valeur la multiplicité des facettes, et François Dubasque en a parlé aussi à un moment, que représente sa vie. Alors, schématiquement, on peut dire qu'André Léo était une femme de lettres, dont l'œuvre est encore très méconnue, même si, évidemment, on a bien vu aujourd'hui que de nombreux travaux sont menés et ont été menés et sont menés. C'est une romancière, c'est une journaliste, c'est une feuilletoniste dont on est loin d'avoir fini d'étudier les écrits. Elle fut membre de la Société des gens de lettres en 1864, elle en démissionna à un moment, et une deuxième fois en 1886. Les communications portant sur son œuvre littéraire ont largement montré l'importance de son rôle d'écrivaine dans sa vie, et surtout ont montré à quel point elle mettait son écriture au service de ses idées politiques. On a pu voir aussi avec Jean-Pierre Bonnet qu'il y a encore de nombreux débats historiographiques et bibliographiques autour de son œuvre littéraire. Quant à Caroline Granier, elle a montré plus particulièrement justement combien André Léo mettait son écriture au service de ses idées et combien elle a une place originale à ce sujet, en particulier en tant que personne qui a pu avoir un rapprochement avec les idées libertaires, défendre un rapprochement... Quant à Cecilia Beach, elle vient de nous montrer aussi une partie de son œuvre feuilletonesque qui était finalement, me semble-t-il, quand même assez méconnue, en sachant que je ne suis pas du tout spécialiste d'André Léo. Ça, c'était une première facette. La deuxième facette, bien sûr, je ne mets aucune hiérarchie dans ce que je vous dis, dans les différentes facettes, c'est que André Léo était une femme socialiste. Par le fait de son engagement et de ses différents combats, dont le principal fut celui de la Commune. Son parcours politique est particulièrement intéressant et riche. Elle est épouse de Grégoire Champsex, partisan du socialisme syncrétique de Pierre Leroux, qui se rattache aux idéaux des premiers socialismes et dont elle semble soutenir les idées pendant un temps. Puis elle est compagne, alors je suis désolée, c'est pas, je ne veux pas dire par là qu'elle suit absolument les idées de son compagnon, mais il se trouve qu'ils ont quand même, je précise, ils ont des, c'est quand même des parcours parallèles. Puis elle est compagne de l'internationaliste Benoît Malon, défendant le point de vue d'une alliance des révolutionnaires avec les démocrates bourgeois de la Ligue de la Paix. Excusez-moi, il y avait une virgule là. C'est André Léo, défendant le point de vue d'une alliance des révolutionnaires avec les démocrates bourgeois de la Ligue de la Paix auprès des anarchistes à un moment, ça c'était en 1869, puis montant à la tribune du congrès de la Ligue de la Paix pour soutenir l'insurrection communarde dans la guerre sociale. Donc des positions quand même assez tranchées. Elle défend son idéal d'émancipation des individus, de paix et d'égalité en dehors des partis, d'une manière indépendante et en femme libre, et elle le fit sans cesse. D'ailleurs, comme l'a très bien illustré le texte de Claude Latta, qui montre que même pendant son exil, elle continue d'être, d'une certaine manière, sur le front des idées et de participer au débat. On pourrait même rajouter d'ailleurs à ça le texte qu'elle, enfin, son testament, dans lequel elle lègue tout son patrimoine, enfin ses biens, pour la création d'une commune collectiviste. Et ça, c'est assez incroyable qu'elle termine sa vie en défendant des idées qui, là encore, la rattachent à la tradition, d'une part, de la coopération, de l'association, et à des idées qui seraient plutôt rattachées aux premiers socialistes. Autre facette, bien sûr, André Léo était féministe. Elle appartient incontestablement à l'histoire du mouvement féministe de la fin du Second Empire et de la Troisième République. Elle s'est battue pour défendre le principe de l'émancipation des femmes comme condition de base fondamentale de la démocratie durant toute sa vie. Et je pense que ça, toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui l'ont très bien montré. Elle était féministe par ses écrits, mais aussi par ses engagements et sa lutte, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes. Elle a un rôle majeur dans la création de la société de revendication des droits de la femme, comme l'a très bien expliqué Alice Primi. Association qui était la première à se former depuis les expériences de 1848, les expériences féministes. Nicole Pellegrin, de son côté, nous a aussi expliqué sur quelle conception de l'histoire de la Révolution André Léo basait son féminisme et combien elle avait il y avait une filiation. Elle se rattachait à une filiation de féministes du 19e siècle. Enfin, quatrième facette, on ne peut pas oublier le rôle de pédagogue d'André Léo. Elle a écrit des programmes d'éducation. En 1965, elle publie ses observations d'une mère de famille à M. Duruy, qui est une charge contre l'enseignement religieux et pour l'égalité de l'instruction. En 1968, elle rédige un programme d'école primaire démocratique dans le journal des droits des femmes. En 1970, elle participe à la commission de l'instruction publique de la mairie du 17e arrondissement de Paris. Le thème de l'éducation comme instrument d'émancipation sociale est récurrent dans ses romans. Et à la fin de sa vie, elle écrit des contes pour enfants dans le magasin d'éducation et de récréation. Ses écrits pédagogiques, les propositions qu'elle a faites et le rôle qu'elle a eu aussi pendant la Commune sur ce thème font qu'elle a également sa place dans l'histoire de l'éducation et en particulier de l'éducation populaire. Fernanda Castaldello nous a rappelé l'importance du rôle de l'instruction dans l'émancipation des individus dans son discours et le rôle d'André Léo dans la lutte pour l'école laïque et l'importance qu'elle accordait aussi aux méthodes. Et puis bien d'autres choses, bien sûr, mais je retiens juste quelques idées. Ce colloque a donc permis de dessiner les différents visages d'André Léo et de mettre en valeur un itinéraire complexe, finalement constitué de plusieurs tranches de vie et de plusieurs facettes. Mais si on peut penser aujourd'hui que la variété de son parcours fait d'elle une personne de son époque d'un grand intérêt pour l'historien, il n'a pas constitué forcément un atout pour laisser une trace nette d'un point de vue historique. D'autant que dans les domaines où elle a joué un rôle, des personnalités plus célèbres ont marqué les esprits et rendent d'une certaine façon plus difficile l'accès à des personnages comme elle, qui deviennent de fait des personnages secondaires, je force un peu le trait, des seconds rôles dont il est difficile de faire émerger la figure. Je citerai seulement deux exemples tout à fait évidents. George Sand, à laquelle on n'a pas cessé, et même encore on en parle, de comparer l'œuvre, puisqu'on on compare le côté champêtre des romans d'André Léo à la période champêtre de George Sand. Et puis, comme elle a choisi de porter un nom d'homme, donc voilà, on en parle très souvent, ça, c'est absolument récurrent dans tous les écrits sur André Léo. Et la deuxième personne, je pense, qui entre guillemets, pouvait faire de l'ombre aussi au personnage d'André Léo dans l'histoire, c'est bien sûr Louise Michel, à laquelle on ne cesse de comparer André Léo parce qu'elles étaient ensemble pendant la Commune, etc. En fait, la personnalité multiforme d'André Léo fait d'elle en quelque sorte une figure difficilement identifiable, repérable dans son époque et dans l'histoire. S'il est incontestable, et ce colloque l'a très bien montré, qu'André Léo fait partie de l'histoire du féminisme, du socialisme, de la littérature du XIXe siècle et même de la pédagogie populaire, il est évident que ses multiples facettes n'ont pas contribué à la faire connaître. À la difficulté d'être une femme publique, je reprends l'expression de Michel Perrault, de son époque, se rajoute peut-être pour André Léo le handicap d'avoir investi différents domaines dans la vie publique qui ont fait d'elle une sorte de figure inclassable. Alors pour terminer, je dirais que peut-être que les travaux qui sont menés maintenant et qui vont continuer, doivent peut-être tendre à faire émerger la figure d'André Léo de façon à en saisir peut-être davantage l'unité, la cohérence, mais en même temps, bien évidemment, les contrastes et les contradictions. Autour de deux axes, autour de l'axe de son œuvre littéraire, puisqu'on a pu constater encore aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient à faire pour connaître complètement son œuvre. Il y a encore du travail avant d'atteindre l'exhaustivité de la connaissance et de l'analyse de ses écrits. Et d'une certaine manière, on peut s'en réjouir parce que quand on voit ce qui est fait et ce qui en sort, c'est complètement formidable. Et peut-être le deuxième axe, ça serait ses idées qui finalement, contiendrait à la fois ses idées socialistes, ses idées politiques, ses idées sur l'éducation, ses idées sur les femmes, qui finalement sont forcément très liées. Et avec leur évolution au cours de sa vie, parce qu'on voit bien évidemment qu'elle a quand même évolué et changé à certains moments dans sa vie. Alors, comme je ne suis pas du tout une spécialiste de André Léo, je voudrais juste rappeler des suggestions qu'avait fait Roger Picard dans une lettre qui a été publiée dans le dernier bulletin de l'association André Léo. Deux petites suggestions que je trouvais intéressantes, même si, comme je vous dis, je suis pas spécialiste. L'idée d'aller travailler davantage sur la correspondance d'André Léo, puisqu'apparemment, il y a encore des lettres au fond des caves qui n'ont pas été exploitées, mais encore, je vous dis... peut-être que je dis une bêtise, mais non, ce n'est pas une bêtise, donc très bien. Voilà, exploiter encore la correspondance d'André Léo, parce qu'on sait que dans les correspondances du 19e siècle, on trouve des choses formidables. Et peut-être, deuxième chose aussi, c'est plutôt que d'opposer, de savoir un petit peu comment ça s'est passé avec Louise Michel, avec tous les compagnons de route qu'a eu André Léo, peut-être essayer plutôt de chercher les points de... Comment dire de chercher la qualité de leur relation et leurs emprunts et apports réciproques. Justement, Roger Picard constate qu'à un moment, il y a un livre d'André Léo qui se passe à Chaumont, d'où est originaire Louise Michel. Pareil pour un endroit où vivait Maria de Rheims. Enfin, il y a peut-être des choses à travailler, mais sous l'optique relation et échange réciproque avec les compagnons de route de Louise Michel. Voilà, je vous dis, c'est tout à fait humble de ma part. Alors, comme je ne savais pas du tout comment conclure cette conclusion, je voulais juste vous parler de ce petit livre que Frédéric Chauveau a présenté ce matin, mais je voulais quand même revenir dessus parce que c'est quelque chose de très encourageant, je trouve, parce que tout en étant quelque chose d'assez marginal, puisque Le Passager clandestin, évidemment, c'est pas Gallimard, il faut quand même souligner que c'est une réédition, ça s'appelle réédition, la collection, et c'est une réédition de textes de grands penseurs, Donc ça veut dire qu'on a été chercher André Léo comme grande penseuse, aux côtés d'Étienne de la Boétie, de William Morris, de Léon Tolstoï, de Lamennais. Voilà, ce sont les autres. Il y a aussi quelques autres femmes, je précise. Et voilà, donc ça veut dire qu'il est sorti il y a quelques mois. Donc ça signifie que tout le travail qui est fait par l'association André Léo et par toutes les personnes qui sont ici porte ses fruits. Et juste pour terminer, je voudrais citer ce que dit Michel Perrault à la fin de son introduction en parlant d'André Léo. Elle dit « Une belle vie en somme, généreuse, active, débordante d'amitié et d'amour, inscrite dans les événements du XIXe siècle, porteuse de ses idéaux et de ses valeurs, et pourtant singulièrement oubliée. » Voilà. Merci. Merci.
Eh bien donc, il est temps de nous quitter, mais vous n'oublierez pas, vous, André Léo, vous avez le souvenir du programme de lecture que nous a proposé Frédéric Chauveau pour les grandes vacances. Il y a, je le rappelle aussi, l'exposition à la bibliothèque de l'université. Et puis, soyez attentifs parce que nous avons ici Madame Gutte Joly qui prépare un film. Et avec sa sensibilité, elle nous présentera une André Léo encore originale, s'il le fallait. Merci en tout cas à la structure qui nous accueille. Merci infiniment. On a été très, très bien traités. Merci à l'université qui a organisé magnifiquement ce colloque. Merci à tous les intervenants qui viennent quelquefois de loin. Et merci à tout le public qui a suivi avec beaucoup d'attention. Et à bientôt, donc.